Herbert George Wells, Le Nouveau Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui peut se vanter d'avoir été un dieu, me dit l'homme au teint basané. Et pourtant, à moi, ça m'est arrivé, avec bien d'autres choses encore. Je lui laissais entendre que je comprenais maintenant ses airs de supériorité. Après ça, m'est avis qu'on peut tirer l'échelle, reprit l'homme au teint basané. Mais j'étais au nombre des rescapés du pionnier de l'océan. Bon Dieu, ce que le temps passe, il y a de ça 20 ans. Vous vous en souvenez peut-être seulement plus du pionnier de l'océan. Oh, je sais qu'il s'agissait de poudre d'or, hasardai-je, mais pour préciser au juste. Oui, oui, me dit-il. Il a sombré dans un petit chenal où il n'avait rien à faire, et où s'était réfugié pour fuir les pirates. Ça se passait avant qu'on ait pris le grappin sur l'affaire. Et puis, il y avait eu, à cette époque, une éruption de volcan ou je ne sais plus quoi. Enfin, tout bref, les écueils étaient changés de place. Aux alentours de Sauna, il y a des endroits où, ma foi, il faudrait presque les tenir à l'œil pour voir de quel côté ils vont encore s'en aller. Donc, en moins de temps qu'il en faut pour donner des cartes au whist, il coula par 20 brasses de fond avec une charge d'or sous différentes formes d'une valeur totale de 50 000 livres sterling. Des survivants? 3. Oh, oui, à présent, je me rappelle, répliquai-je. N'a-t-il pas été question d'organiser des recherches? Mais à ce bout de recherche, l'homme au teint basané fut pris d'un tel débordement de colère et se mit à proférer des jurons si abominables que j'en demeurai tout interloqué. Peu à peu, cependant, ses blasphèmes s'atténuèrent et finalement il parut se ressaisir et s'arrêta net. « Pardonnez-moi, murmura-t-il, mais des recherches !» Et tout à coup, se penchant vers moi, « M'en suis occupé, moi, qui vous parle, grommela-t-il. Moi aussi, j'ai voulu tenter la chance de m'enrichir. Et au lieu de ça, je suis devenu un dieu. Ah, il y a des choses qu'on digère pas facilement, vous savez. Vous pouvez m'en croire, c'est pas tout rose d'être un dieu. » Pendant quelques instants, l'homme au teint basané continua de formuler des réflexions analogues qui, pour énergiques qu'elles fussent, ne me fournissait guère d'éclaircissement sur la cause de son emportement. Enfin, il reprit le fil de son récit. Il y avait d'abord moi, et puis un matelot qui s'appelait Jacobs, et puis Always, le second du pionnier de l'océan. Et c'est lui, Always, qui a mis tout ça en branle. Je le revois encore dans le petit salon canot, lorsque d'un mot, il nous a fourré cela en tête. Oh, il s'y entendait à vous suggérer des idées, celui-là. Il y en avait pour 40 000 livres sur ce navire, nous dit-il. Il me ferait fort d'indiquer l'endroit exact où il a coulé. Pas besoin d'être grand clair pour deviner que cela signifiait, n'est-ce pas? Alors, depuis le commencement jusqu'à la fin, c'est lui qui a dirigé toute l'affaire. C'est lui qui s'est abouché avec les frères Sanders pour avoir leur brique, l'orgueil de Balea. C'est lui qui a acheté le scaphandre, un vieux truc d'occasion qui fonctionnait à l'air comprimé, de marcher avec une pompe. Et c'est encore lui qui aurait plongé si ça lui avait pas donné mal au cœur d'être sous l'eau. Pendant ce temps-là, les gens qui avaient entrepris les recherches armés d'une carte marine qu'il leur avait fabriquée sérieusement, en vrai pas sans rire, qu'il était, s'évertuait à retrouver le trésor à Star Race, c'est-à-dire à 120 000 miles de là. Ah, je vous réponds qu'on s'est pas embêté pendant notre voyage sur ce brick. On faisait que boire et blaguer tout le temps. On mangeait tous ensemble dans la cabine des Sanders. Ça faisait un drôle d'équipage. Tous des officiers et pas un seul matelot. Et il y avait là le scaphandreux qui ne s'attendait plus qu'à rentrer en scène. Vraiment, il avait quelque chose de cocasse, cette espèce de grand mannequin, avec sa tête énorme et sa paire de lubios jumeaux. Et Sanders Cadet, qui était un bon travail vivant, ne manqua pas d'en tirer parti pour plaisanter. Il l'avait baptisé Jimmy Boule de Loto. Il lui parlait tout comme on parle à un chrétien, lui demandant s'il était marié, comment se portait Madame Boule de Loto. Et toute la petite famille Boule de Loto, oh, c'était à cet ordre. Il ne se passait plus une seule journée sans qu'on trinque tous à la santé de Jimmy Boule de Loto. Et chaque fois, on lui dévissait un œil pour lui ingurgiter un petit verre de rhum, enfin, qu'il en ait sa part. Si bien qu'à la fin, au lieu de sa vilaine odeur de caoutchouc, il sentait aussi bon qu'un baril de rhum. Dans des parages aussi dangereux, il fallait avancer avec prudence. Et nous n'étions pas gens à exposer bêtement de vie en agissant avec trop de précipitation. Nous passâmes une journée entière en sondage pour choisir notre chemin jusqu'à l'endroit où le pionnier de l'océan avait fait naufrage, juste entre deux quartiers de rocheux, gros et visqueux. Des blocs de lave qui émergeaient, presque à la surface. Nous fûmes obligés de nous en éloigner d'un demi-mile pour trouver un mouillage sûr. Et arrivé là, quand il fallut décider lequel resterait à bord, je vous garantis que ça ne marchait pas tout seul. On plaqua l'orgueil du Bahia et tout le monde monta dans le canot. Le vendredi matin, dès qu'il commença à faire jour, j'endossais le scaphandre. Quelle surprise! Encore maintenant, je revois toute la scène. C'était un endroit étrange que celui où nous étions. Les gens de par-ci se figurent que dans les tropiques, on ne voit guère que des rivages plats, des palmiers et une grande ligne de ressac. Quelle idée! Celui-ci, justement, n'est pas du tout comme ça. Les rochers n'étaient pas des rochers quelconques, comme on en voit partout. Ils étaient d'un gris cendré, arrondi, et recouverts de dessous d'algues vertes et gluantes, et en-dessus de buissons épineux et d'autres plantes qui se balançaient sous la brise. Ainsi que je vous le disais tout à l'heure, le jour commençait tout juste à paraître, de sorte que les objets étaient encore flous et pas très distincts. À part nous, personne en vue, ni d'un côté du chenal, ni de l'autre. Rien que notre brick ancré derrière une pointe de rocher, face au large. Il répéta encore une fois, « Mais personne en vue !» Puis il se tut. Et ce fut seulement après une pause qu'il reprit. D'où sont-ils sortis? J'en sais rien. On se sentait si tranquille et on se croyait si bien seul que ce pauvre Sanders Cadet s'était mis à chanter. Moi, comme je vous l'ai expliqué, j'étais dans la peau de Jimmy Boule de Loto. Il ne me manquait plus que le masque. À quelques encablures de nous, on voyait l'épave qui était restée telle qu'elle avait coulé, avec sa mâture toute droite et intacte. « Doucement !» avertit Louez. « Voilà son mât !» Un peu plus, je l'ai piqué une tête dans l'eau, car pendant que je me penchais sur le bordage pour regarder, Sanders aîné fit brusquement faire demi-tour à l'embarcation. Quand les hublots furent vissés, et que tout fut pavé et paré comme il le fallait, je fermai la valve de la ceinture d'air afin de faciliter ma plongée, puis je sautai dans l'eau, les deux pieds en avant, car nous n'avions pas d'échelle. La secousse fit osciller l'embarcation, et ma tête disparut parmi les herbes qui environnaient le mât. Inutile de vous dire que je faisais mes débuts dans le métier de scaphandrier. D'ailleurs, les autres ne s'y entendirent pas plus que moi. Nous avions été obligés de tâtonner longtemps avant de réussir à mettre l'appareil en train. Vous n'imagineriez jamais les sensations que l'on éprouve la première fois qu'on descend ainsi sous l'eau. C'est quelque chose d'abominable. J'avais l'impression que je quittais l'aube pour entrer dans la nuit. Au milieu de toute cette noirceur, le mât surgit soudain à côté de moi, comme un fantôme. Puis je traversai une bande de poissons, puis ce furent des algues marines pareilles à de longs rubans rougeâtres, et finalement, avec une espèce de secousse amortie, je touchai le pont du pionnier de l'océan. Alors les poissons, qui étaient en train de manger les noyers, s'éparpillèrent autour de moi comme un essaim de mouches, l'été au-dessus d'un tas de crottins, sur une route. Je fis venir un peu d'air comprimé, car mon costume était plutôt épais, et sentais tout de même le caoutchouc, malgré ses libations de rhum, et j'essayais de me remettre un peu. C'était un peu plus frais, ici, au fond, et cela m'aida à respirer avec moins de difficulté. Lorsque je me sentis mieux, d'aplomb, je regardais autour de moi. C'était un spectacle extraordinaire que celui que j'avais devant les yeux. La lumière elle-même avait quelque chose d'étrange, car les algues qui poussaient de chaque côté du navire n'y laissaient pénétrer qu'une sorte de demi-jour rougeâtre, avec au-dessus une vague et plafarde clarté d'un bleu vert foncé. À part une légère inclinaison à tribord, le pont était horizontal et s'étendait entre les algues comme une large surface sombre qui allait se perdre dans la nuit à la hauteur du gaillard d'avant. À ce moment, avec la rapidité d'un éclair, quelque chose passa devant moi et vint se planter en vibrant entre les planches du pont. Je cherchais à me rendre compte de quoi il s'agissait, et je m'aperçus que c'était un long couteau que j'avais vu entre les mains de Sanders Cadet. Je me fis comme ça. Bon, ce qu'il leur a laissé tomber par mégarde. Et je n'avais pas encore fini de l'invectiver de toutes les façons possibles et imaginables, car il aurait pu me blesser grièvement, que je commençais à me soulever et à remonter à la lumière. Et juste au moment où je parvenais au faîte de la mâture du pionnier de l'océan, crac ! Je me sens bousculé par quelque chose de lourd qui vient de tomber à l'eau. Et en même temps, je reçois un coup de botte sur le devant de mon casque. Puisque quelque chose de très lourd et qui pèse sur ma tête se débat furieusement en se livrant à mille contorsions désordonnées. Sans la botte, j'aurais cru avoir affaire à une grosse pieuvre ou à quelques bêtes du même genre. Mais les pieuvres ne portent pas de bottes. Comme bien vous pensez, tout cela ne dura que quelques secondes à peine. Et presque aussitôt, je sentis que je m'enfonçais de nouveau. Alors, j'ai gardé instinctivement les bras pour chercher à me retenir et à ne pas perdre mon équilibre. Et aussitôt, tout cela glissa, me frôla en tombant à pic vers le fond de l'abîme, tandis que débarrassé de cet obstacle, je me remettais à monter. Il fit une autre pause, puis poursuivit. Je me suis tout juste le temps d'entrevoir la figure de Sanders Cadet au-dessus d'une épaule nue et noire. Il avait le cou traversé de part en part par une lance, et aussitôt après, à l'endroit où il était passé, je vis dans l'eau de petits jets rosâtres qui s'éparpillaient comme des flocons de fumée. Les deux hommes, cramponnés l'un à l'autre et tournoyant sur eux-mêmes, roulaient vers les profondeurs de la mer, trop sérieusement atteints l'un comme l'autre pour s'arracher à l'étreinte qui les nouait. Un instant après, mon cascade s'en alla donnée avec une violence tellement inouïe que je pensais en avoir le crâne fendu contre la pirogue des nègres. Car c'était en effet des nègres. Il y en avait là deux pirogues toutes pleines. Bon, cela faisait vite, je vous en réponds. Un moment après, Olwez, à son tour, culbuta par-dessus bord avec trois lances dans le corps, et j'entrevis les jambes de trois ou quatre nègres qui se démenaient autour de moi dans l'eau. M'était impossible de discerner grand-chose, mais tout de suite je compris que nous étions fichus, et faisant tourner brusquement la valve de mon casque, je me laissai redescendre au milieu d'une gerbe de bulles d'air pour essayer de rattraper ce malheureux Olwez. Je vous laisse à penser dans quel état de stupeur et d'épouvante je me trouvais. Et en passant, je vis Sanders, Cadet et son nègre qui remontaient en luttant toujours, mais plus faiblement. Et quelques secondes plus tard, j'étais redechef de rechef sur le pont du pionnier de l'océan. Bon sang, me dis-je, me voilà frais, des nègres. Et je frémis à l'idée qu'il allait me falloir choisir entre ces deux alternatives, ou bien mourir asphyxié en bas, ou bien mourir lardé de coups de lance en haut. À proprement parler, je ne me rendais pas très bien compte de la quantité d'air respirable qu'il me restait. Mais j'avais l'impression que je ne demeurerais pas sous l'eau, que je ne pourrais pas résister bien longtemps. Non seulement j'avais la frousse, mais j'étouffais de chaleur et la tête me tournait effroyablement. Nous avions oublié de compter avec ces maudits indigènes, ces infects papous. Remonter à la surface ne me servirait de rien. Sans même prendre le temps de réfléchir, j'enjambais le bastingage du brick, me jetais au milieu des algues et m'éloignais dans le noir aussi rapidement que cela me fut possible. Je ne m'arrêtai qu'une seule fois pour mettre un genou en terre, tourner ma tête dans le casque et regarder en l'air. Là-haut, tout était d'un bleu verdâtre extrêmement brillant, et les deux pirogues et le canot flottant au milieu de tout cela semblaient très petits et très loin, et se présentaient sous la forme d'un H brisé, biscornu. Enfin, après avoir tâtonné pendant un moment, je parvins à un endroit où le terrain montait en pente assez rapide. Après avoir lancé un nouveau coup d'œil vers les embarcations pour me rendre encore compte si on les voyait, je me rendis en marche. Et lorsque je fus suffisamment monté pour que ma tête ne fût plus qu'à un pied de la surface, je cherchais à m'orienter un peu, mais naturellement, je ne distinguais pas autre chose que le reflet du fond de l'eau. Alors, j'émergeais brusquement. C'était comme si j'avais enfoncé ma tête dans un miroir. À peine revenu à l'air libre, je constatais que je venais de remonter une sorte de plage située auprès de la forêt. Je regardais partout autour de moi, mais les indigènes et le brick m'étaient cachés par un gros bloc de lave roulée. J'eus la bonne inspiration, pauvre idiot que j'étais, de piquer une course jusqu'au bois pour m'y réfugier. Et j'étais si pressé que je ne pris même pas le temps d'ôter mon casque et me contentais simplement d'en dévisser un des hublots. Puis, lorsque j'eus un peu repris haleine, je sortis tout à fait de l'eau. Vous n'imagineriez pas combien l'air me parut bon et léger à respirer. Naturellement, quand on porte 4 pouces de plomb sous la semelle de ses souliers, qu'on a la tête emprisonnée dans une boule de cuivre de la grosseur d'un football, et qu'on vient de passer 35 minutes sous l'eau, on est guère en forme pour gagner un 100 mètres. Ma façon de courir ressemblait plutôt à la démarche d'un gars de charrue qui se rend au travail, si bien que parvenu à mi-chemin des arbres, je vis déboucher devant moi une douzaine de nègres hébétés qui venaient à ma rencontre. Je me traitais de tous les noms de la création, me disant que j'étais le plus grand imbécile que la terre ait jamais porté. Battre en retraite vers la mer, il ne fallait pas y songer. J'en aurais été aussi incapable qu'une tortue que l'on a mise sur le dos. Résigné à l'inévitable, je me bornais à réviser mon hublot pour avoir les mains libres. C'était d'ailleurs tout ce que je pouvais faire. Cependant, les nègres ne semblaient pas trop pressés de s'avancer. Je ne tardais pas à me douter pourquoi. Jimmy Boule de Loto, dis-je, ce qui arrive, c'est à tes beaux yeux que je le dois. Ben quoi, qu'est-ce que vous avez à me remarquer comme ça? M'écriai-je encore, comme si les sauvages avaient pu m'entendre. Pour qui me prenez-vous donc? Attendez un peu, je vais vous faire écarquiller vos calots encore bien davantage. Mais là-dessus, en cinq secs, je me mets à visser la vaste valve d'échappement et je laisse échapper l'air comprimé enfermé dans la ceinture. En un clin d'œil, j'étais gonflé comme une baudruche. Ma parole, ça devait produire un effet bœuf. Mais ne voilà-t-il pas que mes macaques s'avancent d'un pas? Et puis d'abord un, puis deux, puis trois, puis tous, ils se jettent à genoux, la face contre terre. Ne comprenant rien à l'étrange rencontre qu'ils venaient de faire, à tout hasard, ils se prosternaient devant moi, ce qui, en somme, était très sage et très raisonnable de leur part. J'avais quand même bonne mine, bonne envie d'essayer de fuir du côté de la mer, mais... après tout, c'était trop risqué. Si je reculais seulement d'un pas, ils s'élanceraient tous sur moi avant que j'aie eu le temps de dire « ouf ». Alors, prenant mon courage à deux mains, je me mis à remonter la plage vers eux à pas lents et lourds, en agitant gravement mes bras gonflés. Et tout le temps, pour me donner du cœur au ventre, je fredonnais entre mes dents. Mais si la vie ne fait pas le moine, il y contribue singulièrement. J'ai toujours remarqué, aussi bien avant qu'après cette aventure, que dans les cas difficiles, il n'est rien de tel que d'avoir une prestance qui en impose. Nous autres, qui encore tout gamins, sommes déjà habitués à considérer les scaphandres comme des accessoires de la vie courante. Nous ne pouvons nous faire une idée de l'impression qu'ils peuvent produire sur l'âme simple d'un sauvage. Quelques-uns des nègres se sauvèrent en courant, tandis que les autres, effarés, se cognaient la tête contre terre. Et pendant ce temps-là, moi, j'avançais toujours, avec la gravité d'un juge, et d'une démarche aussi noble que si j'avais suivi une procession. Il était incontestable qu'il me prenait pour un personnage fabuleux. Mais tout à coup, j'en vois un qui saute en l'air, et qui montre quelque chose en gesticulant tant et plus pour attirer en même temps l'attention sur moi. Alors tous les autres se mettent à me regarder et à regarder ce qu'il leur fait voir. Alors bon, que se passe-t-il à présent, me dis-je. Et pour ne pas me départir de ma dignité, je me retourne lentement et qu'est-ce que j'aperçois? Ce pauvre orgueil de Bagna, en train de doubler un promontoire, remorqué par deux pirogues. Oh, je faillis en tomber à la renverse. Mais il était évident qu'ils attendaient quelque chose de moi. Pour ne pas me compromettre, je recommençai à agiter les bras pendant un moment, après quoi je repris ma majestueuse avance vers les arbres. Si vous n'avez jamais fréquenté les sauvages, vous allez sans doute croire que j'exagère, mais je vous assure que c'est la stricte vérité. Ces pauvres êtres ignorants et inquiets me conduisirent tout droit vers l'autel de leur dieu, et sans plus tarder me présentèrent cérémonieusement à la vénérable pierre noire qui s'y trouvait. Je commençais à présent à me former une opinion plus exacte de leur complète ignorance, et dès que je me vis face à face avec cette divinité païenne, je devinais quelle partie je pourrais prendre de la situation. Modulant avec une voix de baryton et sur une seule note, une sorte de hurlement prolongé. Ouh, ouh. J'exécutais de rapides moulinets avec les deux bras, puis très posément et très gravement, je couchais sur le côté l'image de leur culte et m'assis dessus. Il faut vous dire que j'avais grand hâte de m'asseoir, ainsi, vu que les scaphandres ne sont guère de mise sous les tropiques, ou si vous préférez, ils vous habillent un peu trop. Sur le premier moment, je me rendis bien compte que ça leur jetait un froid de voir que je m'asseyais comme ça sur leur dieu. Mais tout de suite après, ils en prirent leur parti et s'employèrent de leur mieux à m'adorer. Ma foi, je vous avoue qu'en voyant les choses tourner ainsi à mon avantage, je me sentis, malgré le poids que j'avais sur les épaules et aux pieds, le cœur infiniment plus léger. Pourtant, il y avait une question qui me tracassait. Qu'allaient penser ceux qui étaient restés dans ces pirogues lorsqu'ils reviendraient? S'ils m'avaient vu dans le bateau avant ma plongée, et alors que je n'avais pas encore mon casque sur la tête, car il se pouvait fort bien qu'ils se soient embusqués quelque part pendant la nuit pour nous épier, il était fort certain que j'exercerais sur eux beaucoup moins de prestige que sur les autres. Cette idée me turlupina pendant des heures, jusqu'au moment où se produisit le tapage qui annonçait leur retour. Mais j'avais bien tort de me faire de la bile, car ils acceptèrent la chose. Moyennant une séance d'au moins 12 heures consécutives, durant lesquelles je dus garder une attitude impassible et raidie, comme celle des anciennes statues égyptiennes d'assises, j'ai réussi à me tirer d'affaire. Mais, par exemple, quel supplice par cette chaleur et au milieu de cette pesanteur! Je crois qu'il n'y en avait pas un seul parmi eux à se douter qu'il pouvait y avoir un homme là-dedans. Je n'étais ni plus ni moins qu'un grand fétiche sorti par miracle de l'onde amère. Mais quelle fatigue, quelle chaleur, quel étouffement! Et ce maudit amalgame de caoutchouc et de rhum, et puis que de simagrer. Imaginez qu'ils ne trouvaient rien de mieux que d'allumer sur une espèce de dalle en lave placée juste devant moi un grand feu où ils brûlèrent en mon honneur des entrailles sanglantes. Tous les déchets du festin qu'ils venaient de faire un peu plus loin, les animaux. Après cela, ils apportèrent une foule de choses. Ils avaient sorti de briques, entre autres, ce qui fut d'un grand soulagement pour moi, espèce de pompe pneumatique qui servait pour l'air comprimé, ensuite de quoi, toute une bande de garçons et de filles se mirent à danser autour de moi une sarabande effrénée. C'est curieux comme les témoignages de respect varient suivant la latitude où l'on se trouve. Enfin, quand la nuit approcha et que le coin où ils me trouvaient devint un peu plus trop sombre à leur gré, vous savez que les sauvages ont peur de l'obscurité, et comme je m'étais mis à pousser les miaulements sinistres, ils édifièrent de grands feux de joie au dehors et me laissèrent en paix au milieu des ténèbres de ma hutte. Cette fois, j'étais seul, bien seul, libre de dévisser mes hublots, libre de réfléchir, libre d'exhaler les plaintes que m'arrachait la souffrance. J'avais faim, j'étais faible, et mon esprit se comportait à la façon d'un scarabée transpercé par une épingle. Activité formidable, n'aboutissant à aucun résultat appréciable. Tantôt je me lamentais sur la perte de mes malheureux compagnons, des ivrognes invétérés, c'est certain, mais qu'ils ne méritaient pas pour cela un sort pareil. Sanders cadet, surtout, avec sa lance qui lui traversait le cou, reparaissait continuellement devant mes yeux. Tantôt, je repensais au trésor englouti là, dans les flancs du poignet de l'océan, et je supputais les chances que l'on pourrait avoir de s'en emparer, de le transporter dans un lieu plus sûr, puis de s'en aller pour revenir le chercher plus tard. En outre, il y avait la question de savoir où se procurer à manger. Je n'osais réclamer de la nourriture par des signes, de peur que cela parût trop humain. Et dévoré par la faim, je mangeais vainement les poings jusqu'à l'aube. Alors le village s'apaisa un peu, et hardi par le silence, n'y tenant plus, je me mis en quête de quelque chose et finis par dénicher un peu de lait sûr et des légumes qui ressemblaient à des artichauts. Ce maigre repas terminé, je pris soin d'en disposer les reliefs parmi les monceaux des offrandes afin de donner à mes adorateurs un aperçu de mes goûts. Le lendemain matin, lorsqu'ils tinrent à nouveau, vinrent se prosterner devant moi, ils me retrouvèrent assis sur leur ancien dieu, dans la même attitude impassible et raidie où ils m'avaient laissé la veille au soir. Je m'étais appuyé de dos contre le pilier placé au centre de la hutte, et je dormais, ou tout au moins je somnolais. Voilà comment je devins un jour une divinité païenne, une fausse divinité, et une divinité par usurpation. J'en conviens, mais que voulez-vous? Chacun fait comme il peut, et on n'a pas toujours le choix des moyens. Et, oh, vous me croirez si vous voulez, mais je restais le divin dieu tutélaire de ces exécrables sauvages durant près de 4 mois. Et que voulez-vous? Il le fallait bien. Mais je ne gardais pas mon scaphandre sur le dos pendant tout ce temps-là. Je m'arrangeais pour leur faire édifier à mon intention une espèce de saint des saints. Oh, ce fut pas sans mal, assurément. Je vous certifie que j'ai eu de la peine à leur faire comprendre ce que je voulais. Oui, c'était la plus grosse difficulté, parvenir à leur faire deviner clairement mes désirs. Ne pouvant pas risquer d'entamer mes prestiges en essayant de baragouiner leur jargon, et ne voulant pas non plus m'expliquer par des gestes, voici le système que j'adoptais. Chaque fois que j'avais besoin de quelque chose, j'en exécutais grosso modo le dessin sur le sable. Puis je m'asseyais à côté et me mettais à hurler à plein poumon. Des fois, ça réussissait, et d'autres fois, ça allait tout de travers. Mais d'une façon comme de l'autre, ils se montraient toujours remplis de bonne volonté. En attendant, je me creusais en vain le cervelet pour trouver un moyen de liquider cette maudite affaire. Toutes les nuits, habillé de pied en cap, je m'en allais un peu avant l'aube jusqu'à un endroit d'où je pouvais voir le chenal où était englouti le pionnier de Pyrrhon. Et une fois même, une nuit qu'il faisait clair de lune, j'essayais de m'avancer dans l'eau jusque-là. Mais les algues, les rochers et la peine que j'avais à suivre mon chemin dans la demi-obscurité me frayèrent à reculer. Lorsque je revins, il faisait grand jour, et je rencontrai tous ces idiots de nègres sur la plage, en train de pousser des gémissements et d'adresser des invocations à leur dieu de la mer, pour le supplier de reprendre sa place au milieu d'eux. Moi, qui n'en pouvais plus, et qui butais à chaque pas, trébuchant contre les geysers, m'affaissant et me relevant sans cesse, j'étais si vexé, si furieux, qu'en les voyant délirer de joie lorsqu'ils m'aperçurent, je leur serais volontiers tombé dessus à bras raccourcis. Et puis, un beau jour, débarqua le missionnaire. C'était pendant l'après-midi, et je me tenais assis dans toute ma gloire à l'extérieur de mon temple sur leur fameuse pierre noire. Tout à coup, il se vit un grand tumulte non loin de là, et j'entendis des voix surexcitées qui se rapprochaient. Enfin, ce fut lui qui parla par la bouche d'un interprète. Ils adorent du bois et des pierres, dit-il. Et aussitôt je compris qu'il allait tout gâcher. Mais j'avais justement un de mes hublots ouverts pour respirer avec plus de facilité, et sous l'impulsion du moment, je lui criais de toutes mes forces. Du bois et des pierres, du bois et des pierres, amenez-vous donc un peu ici, vous allez voir si c'est du bois et des pierres. Il y eut une courte pause, suivie d'une rapide discussion, puis il s'avança, sa Bible à la main, comme ils font tous. C'était un petit bonhomme d'un blond filasse, tout vêtu de blanc et coiffé d'un casque en liège. Malgré tout, lorsqu'il m'aperçut là, assis dans l'ombre avec mon énorme tête de cuivre et mes gros yeux, il ne put s'empêcher de sursauter. « Eh bien, lui demandai-je, comment va votre petit commerce ?» C'était un débutant, il n'était pas de taille à lutter avec un type comme moi. Intimidé, il me demanda en bafouillant qui j'étais. Je lui répondis qu'il n'avait qu'à consulter l'inscription que j'avais sous les pieds. Comme de juste, ce n'était que de la blague d'inscription. Il n'y en avait pas plus que dans le creux de ma main. Ça n'empêche pas qu'il se jette à plat ventre pour la lire. Et son interprète, s'imaginant qu'il se mettait en adoration devant moi, lui aussi s'empressa d'imiter son exemple. Alors, tous mes fidèles se mettent à pousser des hurlements de joie et des clameurs triomphantes. Mon prestige était définitivement rétabli, et c'en était fait du missionnaire. Une semaine après son départ, en regardant un matin vers la mer, je vis la Maternité, le navire des sauveteurs, qui remontait le chenal en jetant la sonde de temps à autre. Cette fois, c'était fini, bien fini, et tout le mal que je m'étais donné n'avait servi à rien. Et dire que depuis 4 mois, 4 mois, vous m'entendez, je m'astreignais à faire le pantin, sous cette défroque nauséabonde. L'homme au teint basané se lança dans de nouvelles diatribes. « Songez un peu, » conclut-il, lorsqu'il retrouvait un mode d'élocution moins incohérent. « Songez un peu. 40 000 livres sterling en or. » Et le petit missionnaire, m'informai-je, vous l'avez revu ? Je pense bien. Et il se porta garant qu'il y avait un homme à l'intérieur du Dieu. Et il se mit incontinent devoir de le prouver. Ce m'en voilà. Il fut refait encore une fois. Car moi j'ai toujours eu horreur des scélérats et des explications. Et longtemps avant son retour, je m'étais tiré des flûtes. J'avais rejoint Balia en longeant la côte, me cachant pendant la journée et chapardant du bois dans les villages pendant la nuit. Pour toute arme, une lance. Pas de vêtements, pas d'argent, rien. Je l'avais pour toute fortune que ma bonne mine, comme on dit, et un maigre butin de 8 000 livres sterling d'or, la 5e part. Mais Dieu merci, les indigènes me vengèrent comme il faut, parce qu'ils étaient convaincus que, si la chance les avait abandonnés, c'était uniquement à cause de lui.